Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia.
Et c'est parti pour nos grands débats du matin sur Sud Radio à 9h-10 avec nos éditorialistes Thierry Guerrier, Philippe Bilger et vos appels au 0826-300-300.
Oui, et on va revenir sur Éric Zemmour. Il y a deux choses en fait autour d'Éric Zemmour. Il y a, on en parlera dans un instant, le fait qu'il ait pris le risque finalement de se présenter aux législatives dans le Var. Est-ce que c'est un risque ou pas? Parce qu'il pourrait très bien ne pas être élu. Il a choisi un endroit où il a le plus de chances d'être quand même au second tour. On verra ça dans un instant avec Thierry Guerrier. Et puis il y a aussi sa relaxe qui a été prononcée hier après avoir déclaré que Pétain avait sauvé des Juifs, même s'il y a une contestation et un pourvoi en cassation de SOS Racisme, n'empêche qu'il a été relaxé. Que pensez-vous de cette relaxe, Philippe Bilger?
Bonjour Laurence, bonjour mon cher Patrick et bonjour à tous.
Bonjour.
Je pense que ça représente un progrès pour la liberté d'expression. Il a été relaxé en première instance et donc confirmation en appel, même s'il y a, comme c'est l'habitude de la part de ces associations, un pourvoi en cassation pour contester la nature juridique de l'arrêt. Je pense j'ai connu une époque où j'avais l'impression que systématiquement il y avait une jurisprudence un peu spécifique contre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ça me paraît représenter un progrès parce que ça montre que on a le droit de discuter, même si on a une vision controversée, critique de l'histoire, même si elle est approuvée par peu d'historiens et discutée par beaucoup d'autres, on a le droit de discuter certaines analyses historiques et par exemple de dire que Pétain a sauvé des Juifs français sans être accusé de contester les crimes contre l'humanité, ce qui n'a jamais été le cas d'Éric Zemmour. Donc, en définitive, la voie est étroite, mais elle existe entre une contestation d'une vérité officielle et l'absence de toute infraction. Toute discussion historique, même de la part d'un polémiste comme Éric Zemmour, n'induit pas une qualification pénale qui justifierait une condamnation. Donc je pense que il n'y a pas de vérité officielle, sauf en ce qui concerne évidemment le tribunal de Nuremberg, il n'y a pas de vérité officielle en histoire à partir du moment où rien dans les propos d'Éric Zemmour ou dans ses écrits ne dépasse ce que la libre recherche historique, aussi discutable qu'elle soit, a le droit de dire.
Oui. Après, il peut y avoir des contestations avec une interprétation aussi des paroles par des historiens. C'est ce qui a été fait. C'est ça, oui.
Thierry Guerrier, Patrick. Pardon.
Thierry Guerrier voulait ajouter un mot. Oui.
Non, je crois que Philippe a raison.
Oui. Philippe a toujours raison.
Non, il n'a pas toujours raison. Mais là,
pouvait être le cas.
Exactement.
Non, je plaisante.
Oui. Pétain aurait sauvé des Juifs. Bon, c'est pas exactement selon moi ce que dit l'histoire. C'est un argument de gens qui sont favorables au maréchal Pétain, pétiniste. Bon, très bien. Mais c'est un argument, c'est une opinion. Et à cet égard, Philippe a raison. On a le droit de contester historiquement cette situation, d'en discuter. D'apporter des arguments ou non. Bon, je suis très loin de penser ça. Je pense qu'au contraire, il faut rappeler que le maréchal Pétain et son gouvernement ont envoyé en nombre des Français, de très nombreux Français, dans les camps de concentration. Ouais. C'est ça la réalité. Bon, maintenant, après, ça se discute et que quelqu'un veuille exprimer une opinion, débattre de cet aspect, de ce fait, de la conséquence de sa politique, c'est un droit inaliénable. Philippe a raison.
Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, puisqu'on parle d'Éric Zemmour, c'est la question que l'on pose d'ailleurs,
sur
Laurent,
Twitter,
sur les réseaux sociaux.
Qu'est-ce que vous pensez de sa décision de se présenter comme candidat aux législatives à Saint-Tropez dans le Var? Ça vote énormément. Pour l'instant, 49% de nos auditeurs trouvent que c'est judicieux, 16% que c'est risqué et honnêtement, 23% sans avis.
Ouais. Voilà, et c'est une erreur, 11%.
Voilà.
Thierry Guerrier et Philippe Bilger, et puis vous au 0826-300-300, hein, vous pouvez nous appeler pour réagir évidemment sur l'actualité.
C'est le jeu et c'est risqué, ou c'est risqué, et c'est le jeu. Éric Zemmour respecte l'esprit de nos institutions, il est candidat. Mmh. Voilà. Je pense que Jean-Luc Mélenchon devrait l'entendre, par exemple. Comment prétendre un jour gouverner, être Premier ministre, par exemple, alors même qu'on ne se présente pas au suffrage?
Bon, oui, il s'est déjà présenté
non,
à plusieurs
non,
reprises.
Non, non, c'est la dernière élection qui compte qui justifie. C'est encore ça l'esprit des institutions de la Ve République. On n'importe qui peut être nommé, ayant la compétence ou non, et le poids politique, bien entendu. Il pourrait l'être, il a du poids politique. Mais ne pas vouloir se présenter au suffrage des électeurs sur un scrutin qui va déterminer la majorité et le gouvernement ensuite, c'est un sujet. Éric Zemmour a peu de chance d'être Premier ministre et il prend le risque puisqu'il veut donner une suite à sa démarche politique. C'est respectable
à cet
égard.
Si, évidemment, parce que si Reconquête n'avait aucun représentant, et il y a ce risque, aucun...
Ce serait la fin de sa carrière politique. Donc
vous croyez Philippe Bilger.
Ce serait plus compliqué.
En effet, Éric Zemmour ne pouvait pas rester en retrait. Il y a des exemples où les chefs ne s'engagent pas. Là, ça n'était pas convenable de sa part. Alors, je pense qu'il peu de chance, parlons net. Oui. D'autant plus que Marion Maréchal ne pouvait pas y aller parce qu'elle est enceinte, apparemment. Et donc, tout cela le contraignait à y aller, et dans des conditions difficiles. Mais on aurait... Au fond, ce qui se passe maintenant, c'est qu'après une campagne présidentielle dont les débuts ont été assez percutants, Éric Zemmour est presque condamné à devenir un homme politique
ordinaire. Oui, mais Philippe Bilger et Thierry Guerrier, d'un mot encore, parce qu'on va être en retard sinon, il se présente, s'il est battu, est-ce que c'est la fin de son aventure
Non, l'adjectif ordinaire est parfait. Décidément, ce matin, je suis totalement d'accord avec Philippe.
Ordinaire, c'est ça.
Il faut que je revienne.
Philippe, non, je le laisse développer cette idée, c'est son idée, mais j'adhère.
Philippe, d'un mot alors ?
D'un mot, je pense que s'il est battu là, je ne le sens pas dans une gestion de l'intendance de Reconquête, je pense qu'il reviendra peut-être à ses premières amours.
Les médias.
Bon, eh ben nous verrons. En tout cas, on en parlera. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? 0826 300 300. Est-ce qu'il a eu raison ? Est-ce que c'est judicieux ? Est-ce que c'est une erreur de se présenter du côté d'Éric Zemmour dans le Var ? Même chose pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a eu tort ? Est-ce qu'il aurait dû aussi se présenter ? Ou alors, il a raison de mettre son lieutenant
Renouveler les générations aussi.
Nous en parlerons dans un instant. Et est-ce que vous redoutez aussi un troisième tour social ? C'est une des questions. On verra ça avec... le baromètre IFOP fiducial tout à l'heure, et Frédéric Dabi.
Et Éric Revel, bien sûr, en campagne, Sud Radio, 8h58, à l'heure.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia.
Allez, avant de poursuivre nos grands débats avec vos appels au 0826-300-300, c'est l'heure de retrouver Revel en campagne avec Éric Revel. Bonjour Éric.
Bonjour Eric.
Bonjour Laurence. Bonjour Patrick. Bonjour à tous.
Je ne sais pas si demain on pourra encore faire des emprunts, si ce sera un petit peu plus compliqué et plus cher. Non mais c'est très sérieux quand même, parce que les taux d'intérêt vont augmenter. C'est une décision de la Banque Centrale Européenne pour stopper l'inflation qui prend de l'ampleur partout en Europe.
Oui, alors c'est un vrai sujet, cette décision de Christine Lagarde, de la BCE et de son comité, parce que les taux d'inflation, nous on est plutôt pas trop mal lotis si j'ose dire, mais les taux d'inflation en Europe parfois dépassent les 10% dans certains pays. Donc augmenter les taux d'intérêt, augmenter ce qu'on appelle le loyer de l'argent, Patrick, ça permet de combattre théoriquement cette hausse des prix qui fait tant de mal au pouvoir d'achat.
Oui, mais concrètement, cette hausse des taux d'intérêt, ça peut se traduire comment dans notre vie quotidienne ? Ce que je disais là, je parlais des emprunts, parce que évidemment, c'est la grande question de beaucoup de gens là, en fait, aujourd'hui.
Oui, alors concrètement, quand les taux d'intérêt augmentent au niveau européen, puisqu'on dépend de la Banque Centrale Européenne, ça veut dire que, par exemple, les coûts de crédit, lorsqu'on veut consommer, lorsqu'on veut acheter un bien avec des crédits à la consommation, ça va augmenter. Ça veut dire que votre emprunt immobilier, Patrick, il va avoir une répercussion avec cette augmentation des taux d'intérêt. Vous allez payer plus cher pour vous emprunter à 20 ans. Mais ça veut dire aussi qu'on va payer plus cher le financement de notre fameuse dette publique. Ça passe souvent inaperçu, mais une augmentation des taux d'intérêt, ça pèse sur les crédits à la consommation, sur l'immobilier, mais aussi sur les taux auxquels on emprunte pour financer notre fameuse dette. Donc les taux d'intérêt, ça va casser l'inflation, la hausse des prix, des denrées alimentaires dont nous souffrons tous, ça va redonner du pouvoir d'achat. Mais attention, vous l'avez compris, une augmentation des taux d'intérêt, ça pèse aussi sur la croissance, ça pèse sur la croissance économique. Et donc à terme, ça pèse aussi négativement forcément sur l'emploi.
Alors, les législatives ont lieu dans un mois, à propos d'emploi et de salaire qu'on évoque. Oui. Jean-Luc Mélenchon promet un SMIC à 1400 euros. Une augmentation qui redonnera ou pas du pouvoir d'achat. On en parlait tout à l'heure avec Philippe Martinez de la oui. CGT.
Alors, Philippe Martinez, lui, bah, dans cet entretien avec vous, Patrick, il parle, lui, d'un SMIC à 2000 euros net. Hein, à 2000 euros net. Alors, je connais les arguments. Hein, ça fait de la cotisation sociale en plus. Bah oui, pour financer les retraites. Ça fait aussi du pouvoir d'achat en plus. Et quand les ménages, notamment les plus défavorisés, consomment, bah c'est bon pour l'économie française. Alors, je vous rappelle quand même deux choses. C'est que Mélenchon promet un SMIC à 1400 euros net. Aujourd'hui, depuis le 1er mai, le SMIC est à 1302 euros net. Il a augmenté de 2,65%. En réalité, ce qu'on dit pas suffisamment, c'est que le salaire minimum, c'est écrit dans le code du travail. Il augmente mécaniquement à chaque fois que l'inflation est supérieure à 2% dans notre pays. Or, l'inflation, bah, elle est plutôt à 5,5 voire 6%, dit l'INSEE. Donc, de toute façon, le salaire minimum, il va de nouveau augmenter. Il est à 1302 euros net. Aujourd'hui. Alors quand vous regardez ce qui se passe en Europe, c'est intéressant aussi parce qu'un peu partout en Europe, les salaires en ce moment augmentent. En Espagne, aux Pays-Bas, en Autriche, le mois dernier, bah, ces hausses de salaires ont été nettes. L'Allemagne qui a aussi un SMIC, Patrick, l'Allemagne aura augmenté à la fin de cet été, au début de l'automne prochain, de 10% son salaire minimum. Donc les hausses de salaires sont un peu partout en Europe, c'est inévitable et évidemment c'est souhaitable. Et certains syndicats européens, Philippe Martinez fera peut-être partie de cela, ils voudraient des clauses d'indexation de l'inflation sur les salaires. Mais, attention, il faut quand même le dire, si l'augmentation des salaires redonne évidemment du pouvoir d'achat, et on en a besoin en ce moment, elle peut aussi, cette hausse des salaires, si elle est trop forte, alimenter, nourrir la hausse des prix dans une spirale où justement, in fine, c'est le pouvoir d'achat qui sera la grande victime de cette course sans fin. Donc, augmentation des salaires, oui, évidemment, on en a besoin, mais attention aux répercussions sur l'inflation et donc sur le pouvoir d'achat.
D'ailleurs, Patrick, on verra que le relèvement des salaires et du pouvoir d'achat, bah, ça fait partie des sujets déterminants du vote aux élections législatives avec Frédéric Dabi tout à l'heure.
Oui, on va voir ça dans un instant. Ouais. Un mot de commentaire sur ce que vous disiez. Et donc, vous pouvez appeler au 0826-300-300. Est-ce qu'il faut une hausse des salaires, en fait, immédiatement? Ou est-ce que ça risque d'emballer un peu plus l'inflation? Thierry Guerrier, ça va être l'une des difficultés, là, et sans doute l'un des sujets forts aussi de cette campagne des législatives. Hein,
oui, et Éric Revel a poser le problème de façon très brillante. En l'occurrence, les taux pour l'immobilier, par exemple, à 10 ou à 15 ans, c'était 0,9 dans les meilleurs taux il y a quelques semaines encore, 1,5, 1,25 et même maintenant 1,45. On dit même que ça devrait, d'ici au mois d'août, passer à 2. On voit bien que la BCE, la Banque Centrale Européenne, est obligée, y est contrainte à cette augmentation des taux. Mais hausse des taux et hausse des salaires, les choses peuvent aussi lui échapper. C'est-à-dire qu'on peut manquer de liquidité pour les entreprises. Ouais. Et ce manque de liquidité, pour certaines, avec une baisse de leur activité en parallèle, pourrait amener à une casse d'entreprise, ça c'est un scénario noir, casse d'entreprise qui manquerait évidemment de capacité de trésorerie par exemple. Et ça c'est le chômage.
Vicieux. Oui, on va voir s'il y a aussi risque de troisième tour social dans un instant avec Frédéric Dabi. Parmi les sujets évidemment de ce matin, il y a Éric Zemmour, on en a parlé avec, sur deux volets, hein, bien sûr. D'une part la relaxe, même s'il y a un pourvoi en cassation. Avec nous au téléphone.
Arnaud, je vous appelle du Morbihan. Bonjour Arnaud.
Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous. Merci de me prendre à l'antenne.
Oui.
Je voulais simplement donner mon point de vue à propos de la candidature d'Éric Zemmour. Je pense sincèrement que si toutefois il n'avait pas de bons résultats lui-même, il n'était pas élu, ça ne changeait rien puisque son analyse politique est parfaitement sincère, réaliste, et n'a pas bougé d'un iota, donc il restera toujours une valeur référence. C'est ça que je veux dire. C'est une valeur référence, une valeur refuge.
Oui, mais si jamais il était battu, parce qu'il prend un petit risque là, sachant que bon, c'était le meilleur score pour son parti, là-bas Reconquête, mais sans être certain, bon, on n'est jamais certain quand on se présente à une élection, quoique il y a des endroits où il y a un peu plus de chance. Est-ce que derrière, vous pensez qu'il continuera en politique?
Ah ben bien sûr.
Oui,
bien
vous
sûr.
Si vous,
mais oui, parce que la libanisation du pays, qui est son analyse, se fera malheureusement de façon presque obligatoire. C'est juste une question de temps.
Ouais.
Donc, il sera toujours positionné sur ces sujets gravissimes pour l'avenir du pays. Et donc, quand les Français comprendront la gravité du problème, je pense qu'il restera toujours une valeur.
D'accord, voilà, c'est votre analyse. Ouais. Il reste. Quoi qu'il en soit, quoi.
L'histoire prouve que en 1940, quand c'était la catastrophe, la débâcle, tout le monde partait, foutait le camp partout parce que les Allemands arrivaient. On est allé chercher un vieux maréchal qui était dans le fond de sa retraite, qui a plus de 80 ans. Vous voyez, puisqu'on parle du maréchal Pétain.
Ouais.
Voilà, vous voyez, c'est une référence, une référence à l'époque. Et on a su aller chercher ce vieux monsieur-là qui a eu tout de suite les pleins pouvoirs à l'Assemblée nationale.
Thierry Guerrier, vous voulez compléter ce que dit Arnaud
Oui, enfin. On a su, il y a 80 parlementaires à l'époque qui s'y sont opposés, puis il y a un autre personnage qui lui est sorti de sa propre initiative et soutenu par l'autre, qui s'appelle le général de Gaulle.
Bien sûr, c'est
l'histoire de... Maintenant, ça fait partie de l'histoire, mais disons qu'il y avait, deux personnages qui représentaient l'un, effectivement, l'indépendance de la France avec l'Angleterre, et les partis en Angleterre, ça c'est compréhensible, et le maréchal Pétain, qu'on est allé chercher, à qui on a donné les pleins pouvoirs, parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Et je pense qu'à l'avenir, les gens qui garderont, qui seront droits dans leurs bottes, qui garderont cette analyse de la gravité de la situation française, seront toujours des valeurs refuges.
On n'est quand même pas dans... on ne peut pas faire quand même le parallèle avec 40, hein, même s'il y a certains qui font le parallèle avec les années 30. Merci Arnaud de nous avoir appelé. Allez, dans un instant, on continue. On va parler, évidemment...
Troisième tour social ou pas à la rentrée, est-ce que vous le redoutez? Vous continuez bien sûr à voter sur notre compte Twitter et on en parle aussi avec Frédéric Dailly, directeur.
Et puis, tout à l'heure aussi. Alors, dans la vérité en face. Une vérité, en tout cas la vérité, de Mathieu Gallet sur une affaire politico-médiatique. C'est un véritable roman ce qui s'est passé. On apprend et on entre en fait dans les coulisses et dans les arrière-cuisines de la politique et des médias, des relations particulièrement intéressantes. Il sera notre invité avec un livre où il dit beaucoup de choses. Il passe à table, si je puis dire, Mathieu Gallet. Jeu de pouvoir tout à l'heure, parce que vous vous souvenez, il y avait eu un fameux SMS qui avait fait le tour de France. Partout, on parlait de ce SMS, d'une relation supposée de Mathieu Gallet avec un certain Emmanuel Macron qui était candidat à la présidentielle.
Voilà.
On va en parler dans un instant.
À partir de 9h30. Sud Radio, 9h16.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia.
Et à 9h19, c'est la suite de nos grands débats entre l'inflation et la suite des élections. Est-ce que vous redoutez un troisième tour social à la rentrée? C'est la question qu'on vous pose depuis 7h du matin sur nos réseaux et vous êtes à 71% à le redouter ou beaucoup, beaucoup de commentaires aussi à le souhaiter, ce troisième tour social. On continue à en parler avec, bien sûr, Thierry Guerrier et Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, pour commenter justement les résultats du dernier sondage IFOP Fiducial sur Sud Radio.
Oui, bonjour Frédéric Dabi.
Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Bonjour.
Bon, les déterminants donc pour les votes aux législatives là, et le risque d'explosion sociale. Hein, c'est l'enquête que vous avez menée dans cette balise. Qu'est-ce qui ressort déjà sur le risque d'explosion sociale?
Alors, Patrick, pour nos auditeurs, c'est une question qu'on n'a pas inventée le contexte actuel. On la pose depuis janvier 1998. On pose une question très simple, une question de pronostic. Pensez-vous dans les prochains mois, la France peut connaître une explosion sociale? J'ai conscience que ce terme peut être un petit peu, comment dire, enfin, polysémique. Qu'est-ce que veut dire une explosion sociale? Mais ça montre la tension sociale. Et ce qui est absolument incroyable, mais ce n'est pas une surprise, c'est que jamais le pronostic des Français sur une possibilité d'explosion sociale a été aussi élevé. 77% d'entre eux considèrent qu'il y a un risque réel d'explosion sociale. C'est par exemple 9 points de plus comparé à octobre 2021. C'est même supérieur à ce qu'on avait à la veille du mouvement des Gilets jaunes. On n'était qu'à 66%. Qu'est-ce que ça reflète, Patrick? Ça reflète deux choses. Ça montre que la campagne présidentielle n'a rien tranché. Elle n'a pas, comme dans les campagnes passées, aplani les tensions, aplani les doutes, fait repartir le pays, si je puis dire, sur le bon pied. Et deuxièmement, et ça fait le lien avec la première question de notre balise dont vous parliez, ça montre à quel point la question du pouvoir d'achat écrase tout, structure tout. C'est le premier déterminant du vote avec la santé. 73% des Français considèrent que le relèvement des salaires, le pouvoir d'achat est l'enjeu majeur pour eux. Ils étaient, pour vous dire, il y a un an et demi à peine 50%. C'est le sujet qui écrase tout et c'est le sujet qui crée ces tensions sociales avec ce risque d'explosion.
Oui, c'est ça. Devant, donc vous l'avez dit, la santé, l'éducation, la lutte contre, la lutte contre l'insécurité qui arrive assez tôt finalement.
Finalement.
En quatrième position, alors que pendant la campagne, on en avait beaucoup moins parlé.
Tout à fait. Et ce qui est très intéressant, c'est peut-être le fait que entre les deux tours et depuis le début de son deuxième mandat, Emmanuel Macron en parle beaucoup, remontée très nette de la protection de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique qui avait été un peu, vous vous en souvenez, écrasé pendant la campagne présidentielle par exemple, l'inflation.
Thierry Guerrier, un mot de commentaire sur ce... Éric Revel avec Frédéric Dabi et vous au 0826-300-300 sur ce risque en fait, d'explosion sociale qui est quand même... c'est le relèvement des salaires et le pouvoir d'achat et donc on voit que derrière, s'il n'y a pas de réponse, il y a un risque. Quoi, hein. En clair, c'est ça.
Je suis frappé dans l'analyse de Frédéric Dabi par sa remarque sur le fait que l'élection présidentielle n'a pas rythmé comme elle aurait dû le faire, comme l'esprit des institutions de la Ve République le prévoit, n'a pas rythmé notre vie politique de telle manière qu'elle ait en quelque sorte renversé la table et permis de relancer la vie politique de façon plus enthousiaste ou plus positive. Et vous dites c'est pas fini. Précisément, c'est tout ce que j'ai essayé d'évoquer ce matin, c'est-à-dire que le président de la République prend un risque à jouer ainsi avec l'esprit des institutions et à jouer à cache-cache avec la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement. C'est fondamental.
Pourquoi il joue à cache-cache, il ne joue pas à cache-cache
Mais parce que ça fait presque un mois que la France, en réalité, n'a plus de gouvernement réellement opérationnel et qui donne une ligne pour répondre à tous les sujets évoqués par Frédéric. C'est ça la question. Ça devient flagrant, si vous voulez.
Ouais.
Il gère les affaires courantes, plus rien. Par exemple, je vous donne un exemple.
Ouais.
Sa propre majorité, le maire de Reims, qui est un des porte-parole, un des lieutenants...
Arnaud Robinet, c'est
ça. Qui est un des porte-parole d'Édouard Philippe. Donc d'Horizon. Horizon, c'est un des piliers de la majorité, du groupe majoritaire sans doute, qui va sans doute gagner, mais en tout cas ça va être l'objet des législatives, en tout cas qui déjà aujourd'hui a du poids dans le gouvernement évidemment. Eh bien, Arnaud Robinet dit il faudrait très vite lancer une grande conférence sociale pour envisager la réforme des retraites, pour la discuter avec les syndicats. Ça n'est possible qu'avec un gouvernement et un Premier ministre nommé là ces jours-ci pour lancer ce processus avant même les législatives
Philippe
et avant
Martinez
l'été. Vous voyez donc que c'est essentiel.
Martinez a dit de la CGT, attention, pas de coup tordu pendant l'été. Hein, donc,
non, faut discuter, il faut lancer une conférence sociale. C'est long ces processus, si on veut le faire correctement.
Éric Revel.
D'un point de vue politique, je ne vois pas comment Emmanuel Macron et son nouveau gouvernement vont pouvoir mener de front à la fois les réponses sur le pouvoir d'achat et une réforme des retraites qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas extrêmement populaire.
Mais il faudrait déjà qu'il y ait un gouvernement.
Peut se justifier. Il faut déjà qu'il y ait un gouvernement. Mais donc ça, c'est un peu antinémique, hein, c'est-à-dire accroître le pouvoir d'achat et en même temps réformer l'âge de départ à la retraite, c'est pas simple à mettre sur la table dans des négociations. Maintenant, une chose qui me semble évidente, hein, je le rappelais tout à l'heure, le SMIC, aujourd'hui, il est à 1 302 € net, puisqu'il a augmenté de 2,65% au 1er mai. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il communique beaucoup sur ce chiffre, il promet 1 400 € net. Alors, c'est pas négligeable, c'est une augmentation de 98 € par mois. Quand Philippe Martinez, lui, demande 2 000 € net. La question que je pose, et sur laquelle a rebondi tout à l'heure Thierry, c'est que, au-delà de ce besoin d'accroissement du pouvoir d'achat qu'on a en France, notamment pour les plus modestes et ceux qui sont payés au salaire minimum, on a une vraie question. C'est que le tissu économique en France sont des PME et des TPE. Avec la chute de la croissance, ou en tout cas la mollesse de la croissance, ça veut dire que leur chiffre d'affaires, leur trésorerie vont être moins importantes. Et comment ces entreprises, les PME, qui sont l'essentiel du tissu économique français, vont-elles pouvoir supporter des augmentations du SMIC de 1 400 ou même de 2 000 € comme le souhaite Martinez. Pourquoi? Parce que en réalité, quand vous augmentez le SMIC, et encore une fois, c'est pas la mesure qui me choque, c'est ce qu'elle entraîne. Vous êtes obligé mécaniquement de revoir toute la grille des salaires de l'entreprise. Parce que ceux qui sont payés juste au SMIC, ils ont besoin aussi qu'on bien revalorise leur pouvoir d'achat. Donc cette augmentation des salaires dans l'entreprise, quelles entreprises vont pouvoir se le permettre? Et quelle répercussion sur la spirale inflationniste ?
Brièvement, Thierry Guerrier.
Convenez, Patrick, que l'équation posée à l'instant par Eric, ce n'est pas un ministre en suspens qui, a, qui
non,
n'est
non,
plus,
non,
voyez,
non, bah, bien sûr.
C'est un ministre,
alors,
même, bah, même si les élections n'ont pas eu lieu,
justement,
opérationnel.
Prenons en fait une minute, donc 30 secondes chacun. Est-ce que vous avez des informations sur le nouveau gouvernement, nouveau Premier ministre, quand Thierry Guerrier.
Non, ça devait être aujourd'hui, la démission de Jean Castex. Finalement, c'est reporté à après dimanche. Voyez. Oui. Personne ne sait rien, en réalité.
Donc peut-être lundi. Quoi.
Exactement.
Éric Revel et Frédéric Dabi. Éric.
Bah, moi, je m'attendais aujourd'hui à Madame Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO.
Bon, d'accord.
Ancienne ministre de la
Culture. Est-ce que ça veut dire que c'est difficile de travailler avec Emmanuel Macron? Est-ce que ça veut dire que aucun premier ministre, femme ou homme de gauche, ne voudrait porter cette fameuse réforme des retraites? Ou est-ce que ça veut dire que l'instabilité du poste est telle que peut-être qu'il se passera quelque chose après les législatives et que celui qui serait nommé là ne serait pas pour longtemps.
Bon,
enfin,
donc,
ça donne quand même une image de confusion et de manque de transparence.
Vos oreilles traînent partout, Frédéric Dabi. Est-ce que vous avez des informations?
Non, je n'ai pas d'informations, mais quand même, je vais me placer du côté de mon métier, c'est-à-dire du point de vue du regard des Français et de l'opinion publique. Si je puis me permettre, et c'est pas pour vexer, mais l'impatience médiatique et de notre microcosme est quand même beaucoup plus forte que l'impatience des Français. Quand on regarde notre balise, l'impatience
sur
la question du
Thierry.
Mais bien sûr, mais vous avez raison d'essayer de donner des informations.
Que
mais
les Français ne soient pas tous les jours sur l'histoire des institutions et l'esprit.
Mais
et
bien sûr.
Bon, ok, mais ça, c'est en même temps, c'est notre mission.
Thierry, quand on voit notre balise et le poids du pouvoir d'achat, le poids d'éducation, ce risque d'explosion sociale, voilà des sujets qui parlent plus aux Français.
Mais quand les Français se rendront compte qu'il n'y a personne pour prendre vraiment les décisions et le gérer,
vous avez raison, parce que l'inaction, c'est la pire des critiques. L'inaction, c'est la pire des critiques associées à un pouvoir exécutif, et la chance, ou plutôt le talent d'Emmanuel Macron, qu'on le veuille ou pas, c'est qu'il a pendant tout son premier quinquennat échappé aux soupçons d'inaction. On a critiqué son action, mais très peu de Français dans nos enquêtes, même ceux qui ne l'appréciaient pas, considéraient qu'il ne faisait rien.
Allez, merci Thierry
beaucoup.
Guerrier, Éric Revel, Frédéric Dabi, et vous, 0826-300-300. Vous pouvez continuer d'appeler, et d'ailleurs, peut-être chez Valérie Expert, probablement qu'on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure dans les débats de Valérie, à partir de 11h moins le quart, sur cette question. Bon, a priori, pas de Premier ministre, pas de fumée blanche avant probablement le début de la semaine prochaine, puisque Jean Castex doit aller du côté de la place Saint-Pierre pour cette canonisation dont nous avons parlé. 3 Français hein, parmi les 10 de ce week-end. Donc, ce qui veut dire qu'il a pris son billet d'avion, Jean Castex, pour aller à Rome en tant que Premier ministre, le représentant. Donc, il ne devrait pas y avoir d'ici là de changement. Probablement pas. Allez, dans un instant,
Mathieu Gallet, l'ancien PDG de Radio France, pour un bouquin, un livre, enquête, règlement de compte, ça s'appelle Jeux de pouvoir aux éditions Bouquin. Toute la vérité sur cette fameuse affaire politico-médiatique, on en y revient, cette fausse rumeur de liaison avec Emmanuel Macron, c'était en 2017.
Oui, restez bien parce que c'est un vrai roman. Et tout ça part du Sud-Ouest et va ensuite à Paris. Dans les dîners mondains. Nous en parlons dans un instant.
Sud Radio 9h29.